Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Ce verset commence le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Il est placé juste avant la scène, le Jeudi Saint, et chez saint Jean, tout ce passage du Jeudi Saint et puis du Vendredi Saint prend beaucoup de place. Vous voyez, on est à peu près au milieu de son évangile et déjà nous sommes Jeudi Saint. Ça nous amènera jusqu'au chapitre 19 de la crucifixion. Donc beaucoup de choses qui se passent durant ces deux jours, durant cette heure de Jésus. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. C'est cela que nous allons contempler ensemble aujourd'hui. Et essayer de réfléchir sur cette petite parole de saint Jean qui a beaucoup d'importance. Il les aima jusqu'à la fin. In finem dilexiteos. Et on va essayer de réfléchir sur ce qu'est la fin, le terme de l'amour de Dieu pour nous. On va essayer de réfléchir, est-ce que cet amour peut avoir une fin? Que veut dire saint Jean lorsqu'il nous dit « il les aima jusqu'à la fin » Et on va essayer de voir cela à travers différents regards sur le jeudi et le vendredi saint. Nous sommes au début du temps de la Passion, nous tournons vers cette semaine sainte, nous nous y préparons. On ne pourra pas tout dire, bien évidemment, ni observer tous les personnages qui s'agitent autour de Jésus et qui chacun mériterait un regard particulier. Vous avez déjà eu, je crois, en 2019, une très belle récollection carême de l'abbé Sauvonnet sur les quatre figure de la Vierge Marie, de Sainte Marie-Madeleine, de Saint-Pierre et de Judas, si vous avez le temps cette semaine, la semaine prochaine, de les écouter. Elles sont sur le site de Catessence et elles sont vraiment magnifiques pour rentrer dans cette Jésus vu par ses proches et la relation que Jésus a eue avec ses proches. Je ne vais pas avoir le temps de tout faire, mais si j'avais un peu l'intention au début, je vais plutôt me concentrer sur Jésus lui-même et essayer de le regarder avancer et manifester cet amour de Dieu aux hommes à travers trois regards, même si le premier va être peut-être plus court parce qu'il va y avoir une longue introduction. Trois regards sur le cœur du Christ. On va regarder le cœur de Jésus. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, nous dit saint Jean encore, et c'est ça qu'il faut faire. Ou alors avec saint Thomas, mettre notre main dans le côté percé de Jésus. C'est l'attitude de celui qui veut comprendre un peu plus le mystère de la Passion et de la résurrection de Jésus. Il faut nous approcher du cœur de Jésus. Et ce cœur nous dit plusieurs choses, mais je crois que jeudi et vendredi saint, il se manifeste sous trois aspects différents, riches pour nous. D'abord, le cœur eucharistique de Jésus. Et c'est le don de la messe, le don de l'Eucharistie qui est l'une des preuves d'amour les plus tangibles pour nous, puisque nous y avons accès quotidiennement. Ce cœur eucharistique de Jésus, c'est par amour que Jésus invente la messe et demeure auprès de nous dans le pain consacré. On va méditer dessus en première conférence, à la fin de la première conférence. Ensuite, on va, et on n'a pas le choix, il faut aller dans la difficulté de la Passion, il faut oser affronter le visage souffrant du Christ, et on va aller regarder le cœur broyé de Jésus au moment de l'agonie. Au moment de l'agonie, ce cœur broyé, la rencontre entre un amour extraordinaire, fulgurant, et la saleté du péché qui est le nôtre. Et cette rencontre est un choc, et ce choc, c'est l'agonie de Jésus, le jeudi soir, à laquelle nous sommes appelés à nous associer, après la messe vespérale, dans la semaine sainte, en restant avec Jésus au reposoir. Et là, il y a tout un thème dur. On va tenir une heure dessus, mais un thème vraiment dur qu'il nous faut regarder avec courage pour comprendre à la fois l'amour et la dureté du péché, c'est l'agonie. Et puis le troisième thème, celui que saint Jean particulièrement nous invite à regarder de manière assez différente des autres évangiles, ça va être le thème du cœur transpercé de Jésus, de cette scène que seul saint Jean relate. Parce que peut-être seul saint Jean l'a vu, un des quatre évangélistes, de ce cœur transpercé après la mort de Jésus, qui nous dit quelque chose de tout à fait différent, qu'il faut tenir aussi avec le regard sur l'agonie. Ce sera la troisième conférence. Et ma source principale, c'est pas un scoop, ça va être les évangiles, ça va être l'écriture sainte. On va aller lire certains de ces textes pour essayer de tout simplement de les méditer, de les avoir à l'esprit au bon moment. Ça, parfois, il n'y a pas besoin de dire beaucoup d'explications, mais simplement de relire ces textes qui nous parlent de l'amour de Dieu dans la Bible, en essayant un peu de faire des liens. C'est toujours assez passionnant de faire les liens entre les différents textes, qui est difficile pour nous, parce que, ben justement, lorsque nous allons à la messe, nous avons un texte, nous le recevons en lui-même, mais on ne voit pas forcément qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. Et pourtant, ces liens ne sont pas du tout artificiels, ils sont extrêmement importants, pour trois raisons. D'abord parce que, au cœur d'un même évangile, écrit par une même personne, il y a des liens volontaires, et on va voir surtout chez saint Jean, il met des indices au début de son évangile qui n'ont du sens qu'à la fin, et qui nous illuminent sur une scène qui peut-être paraissait mystérieuse. Et donc ça, au cœur d'un même évangile, d'arriver à faire parfois les rapprochements entre cette scène-là et la suivante, révèle des choses très riches. Et ensuite, au cœur même des textes de la Bible, puisque un auteur du Nouveau Testament, par exemple, connaît par cœur les textes de l'Ancien, nous, on a l'impression de les découvrir tous les jours, parce qu'on est un peu... on ne la lit pas assez souvent, la Bible. D'ailleurs, on aurait des efforts à faire là-dessus. Mais un auteur du Nouveau Testament connaît les prophéties par cœur, et lorsqu'il met un mot dans son évangile, c'est jamais anodin. Et ça renvoie, pour celui qui sait lire, à tel texte de l'Ancien Testament qui dit telle chose, et donc ça éclaire. Voilà. Ça, c'est des liens qui sont magnifiques dans la Bible, et puis humains, des liens, des repères humains qui ont été placés, et puis, n'oublions pas que la Bible est d'abord un livre écrit par Dieu, par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit lui-même joue, s'amuse, ou pose, laisse des indices que par la prière on peut découvrir. Vous voyez, aucun mot de la Bible n'est anodin. Et ça, je crois qu'il faut le tenir, même si parfois ça peut tomber étrange que des personnes fassent des livres entiers sur tel mot. Est-ce que c'est des mots divins? Et nous, la richesse d'avoir l'Écriture sainte, d'avoir Dieu qui s'est révélé, qui a pris le temps de nous parler, et il n'a rien dit par hasard. Et l'abbé Crasse, prêtre au séminaire, fait une thèse de théologie biblique sur Saint-Pierre dans l'Ancien Testament. Je veux dire, il ne va pas trouver beaucoup de passages qui parlent de Saint-Pierre dans l'Ancien Testament, puisqu'a priori, Saint-Pierre, c'est un personnage du Nouveau. Et pourtant, il en est à, je sais pas, 2000 pages. Enfin, parce que tout est annoncé. La Bible est un miracle permanent qu'on a entre les mains, et Dieu en est l'auteur unique, qui crée des liens du début à la fin. On va en voir quelques-uns. Adam, de Néa, parce que je vais peut-être l'oublier, mais le côté du Christ transpercé, qui est le côté d'Adam, d'où sort l'Église, d'où sort Ève, et le Jésus est le nouvel Adam. Et c'est des liens, on relie les deux bouts. Il y a je ne sais pas combien de trentaines d'années entre les deux, mais c'est tout à fait voulu par le bon Dieu pour nous faire rentrer dans des choses assez, assez belles, je crois. Alors voilà, on va parler de cette heure de Jésus qui est le triduum pascal, principalement, qui est annoncé depuis le début des évangiles par le Christ lui-même. On pourrait y voir une sorte de première annonce au moment du recouvrement de Jésus au Temple, lorsque Jésus explique l'Ancien Testament aux docteurs, alors qu'il n'a que 12 ans, et leur dit, ça c'est pour ça. Et les docteurs sont effarés de sa science, et la Vierge Marie qui l'a perdue, qui est dans l'angoisse de l'avoir perdue pendant 3 jours, ce qui n'est pas du tout anodin non plus, les 3 jours de la perte de l'enfant Jésus pendant le recouvrement de temps. Ce sont les 3 jours de la mort du Christ, où elle va le perdre vraiment. Jésus prépare sa mère à sa passion, et le prépare non seulement en disparaissant et en accomplissant les Écritures par en parlant au docteur de la loi, mais il la prépare aussi par cette petite phrase qui lui dit « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et il est tout à fait certain que la Vierge Marie, qui, dans le texte biblique, juste après ce passage, nous dit elle méditait ces paroles dans son cœur, est tout à fait certain que la Vierge Marie, lorsqu'elle voit Jésus sur la croix, et l'entendre « Mon Père, j'aurai mon âme entre vos mains », dire « Il est aux affaires de son Père. Il est aux affaires de son Père. » L'heure était annoncée, c'est pour cela qu'il est venu. Un peu plus loin, toujours avec la Vierge Marie, qui pourrait être un film directeur, même si ça ne le sera pas aujourd'hui, à Cana. À Cana, lorsque Jésus ne veut pas commencer sa vie publique, parce qu'il sait que s'il la commence, ça lance un engrenage qui va le conduire jusqu'à la croix, qui, attention, sont toujours très délicats avec ces histoires de volonté du Christ, on va la voir pour l'agonie, non pas ma volonté, mais la vôtre, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus refuse? Non, c'est beaucoup plus fin que ça, essayer de s'y pencher, mais en tout cas, à Cana, une partie du Christ, en tout cas, n'est pas encore disposée, ou se prépare à être disposée à commencer là, sa vie publique, et c'est la Vierge Marie qui le déclenche, On n'en est pas encore venu, mais finalement, parce que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce mot femme, il appelle sa mère femme. Il n'y a qu'un seul autre passage où Jésus appelle sa mère femme, c'est sur la croix. Femme, voici ton fils. Vous voyez, il y a des liens qui sont évocateurs et qui Jésus a préparé ses disciples à son heure. Parce que son heure est tellement fulgurante, tellement violente, elle passe tellement vite que si on n'y est pas un peu préparé, on risque vraiment de passer à côté. Et c'est toujours le danger pour nous qui arrivons à la fin du carême. On a fait des efforts, on a essayé. La semaine sainte est là, il y a les offices, c'est jamais au bon moment, mais on travaille. Et surtout, il y a Pâques très vite après. Donc on est plutôt tendu vers la préparation du repas pascal après ces grands efforts de carême. Et bien souvent, finalement, ces deux jours, ces trois jours, risquent de passer un peu vite et on passe à côté. Donc, c'est pour ça que l'Église a institué ce temps de la Passion, qui commence dès demain avec déjà des signes très visibles, des croix et des statues voilées, on en parlera demain, pour dire, c'est le moment, dès maintenant, commencer à nous préparer à l'heure de Jésus pour en faire sortir quelque chose de riche pour vos âmes. Pour ça. Alors, après cette première introduction, j'ai un grand défaut, j'ai beaucoup d'introductions, et le premier tour n'est pas dépendant une introduction à elle toute seule. Mais bon, dès le départ, il y a peut-être des choses à raconter dans les introductions. Parce que je ne voudrais pas aborder, si on regarde le cœur de Jésus et l'amour que Jésus a pour nous, je pense qu'on perdrait beaucoup à commencer directement avec le Nouveau Testament et avec la vie du Christ. Cette révélation de l'amour de Dieu, qui est le cœur de Jésus, l'amour de Dieu pour nous, elle commence dans l'Ancien Testament et en ce moment nous dit des choses qui vont nous éclairer sur le Nouveau. Et c'est vrai que on a parfois l'impression que l'Ancien Testament nous dévoile un Dieu qui est dur, qui est intransigeant, parfois tyrannique, et qu'on a l'impression que c'est plus le même que celui du Nouveau Testament. Ce qui est totalement faux, bien entendu. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Je reconnais qu'il y a dans l'Ancien Testament des points délicats que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que ça me prendrait trop de temps. Comment expliquer le déluge? Comment expliquer le fait que la mort des plaies d'Égypte, de la part d'un Dieu aimant et miséricordieux? Bon, il faut savoir parfois dire qu'il y a un mystère là-dedans, on va le creuser, peut-être pas maintenant, et nous concentrer sur les choses plus évidente pour nous, mais on ne peut pas tomber dans un défaut qui est une hérésie d'ailleurs, dans le martionnisme, qui est de mettre tout l'Ancien Testament à la poubelle et de nous concentrer que sur le Nouveau. Hein, les deux livres sont les deux poumons de la foi et tout le Nouveau Testament est contenu dans l'Ancien, caché, mais vraiment contenu. Une idée qui peut peut-être nous aider et nous éclairer sur cette apparente distance entre le Dieu de l'Ancien et le Dieu du Nouveau, c'est l'idée d'une pédagogie divine dans laquelle Dieu petit à petit se révèle. Il est le même dès le début, mais il se révèle et il révèle en fonction de l'état de celui à qui il se révèle, en fonction du peuple hébreu. Un peu comme dans l'éducation, avant au début, on fixe les règles et les règles, si l'enfant les outrepasse, on va le punir, il y a un cadre, et si tu sors du cadre, bien, tu seras puni. Voilà, je te mets le cadre, c'est les 10 commandements, voilà ton cadre très précis, et si tu en sors, eh ben, tu seras dérouté par tes ennemis, tu perdras ton pays, tu seras resté 40 ans dans le désert pour avoir adoré le veau d'or, pour avoir désobéi au premier commandement de la loi, etc., etc. C'est une pédagogie divine d'enfant, une attitude qu'on a avec l'enfant, puisque Dieu aime profondément son peuple, et il ne faut surtout pas que son peuple s'égare dans tous les vices et toutes les difficultés, les tentations qu'il a autour de lui, étant le seul peuple monothéiste, quand même, il faut se rappeler ça, de tout le bassin méditerranéen, en tout cas. Et voilà, Dieu privilégie et protège son peuple par des barrières, mais surtout n'en sort pas. Et puis Dieu prépare le Messie. C'est dans ce peuple-là que le Messie doit venir. Et donc ce peuple-là, il est important qu'il garde la vraie foi. Et petit à petit, le peuple hébreu grandit, il passe d'enfant à adolescent. Et l'adolescent, on discute beaucoup. Hein, on est moins à punir et à c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que ça ne marche plus. L'adolescent, il commence à avoir un peu soit des muscles, soit un peu du jugeote. Et du coup, c'est plus compliqué. Voilà, et donc on discute, on explique le pourquoi, du comment, pourquoi cette loi est bonne. Parce qu'en plus, le peuple hébreu, qu'est-ce qu'il se rend compte ? Il se rend compte que lui, il observe bien la loi, mais il lui arrive que des difficultés, et le pécheur prospère. Le retournement dans l'Ancien Testament à ce niveau-là, c'est Job. Il est très important, dans lequel on se rend compte que faire le bien sur la terre, ça n'est pas pour être heureux sur la terre. Alors qu'avant, c'était un peu ça l'idée. Si tu fais le bien, tu auras un pays, je te protégerai, et tu prolongeras tes jours, etc., etc. Et avec Job, on se retourne. Non, le juste souffre. Et c'est à partir de là que commence petit à petit l'idée d'un bonheur surnaturel. C'est un moment très important qui va être suivi aussitôt par le livre de la sagesse, dans lequel on explique pourquoi il est bon d'observer la loi, pourquoi il est bon de suivre Dieu. Il y a le psaume 118 qui a un hymne d'amour à la loi divine. Voilà. Ça, c'est l'adolescence, on va dire, du peuple hébreu. Et enfin, arrive l'âge adulte avec le Christ qui révèle que tous les commandements, que tous les ordres, que tous les interdits se résument en un seul, qui est celui de l'amour de Dieu et du prochain. Évidemment, c'est ça. Aime et fais ce que tu veux, dit Saint Augustin. Ça veut dire qu'on observe exactement les mêmes commandements qu'au début. On n'a pas changé d'un iota par rapport à la règle que Dieu a donnée sur la montagne sacrée, mais on les fait véritablement par amour. Une évolution pédagogique. Malgré ça, dans l'Ancien Testament déjà, il y a quand même des textes extrêmement importants dans lesquels Dieu essaye de nous révéler son amour. J'en ai pris quelques-uns. Il dit Osée, c'est un prophète, Osée chapitre 11. « Ainsi parle le Seigneur, oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » L'image maternelle de l'amour de Dieu qui est très importante. « Mais ils ont refusé de venir à moi, de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment ? Non, mon cœur se retourne contre moi et en même temps mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. » Un texte vraiment magnifique, avec deux, trois idées. Le rapprochement entre l'amour de Dieu et l'amour d'une mère, sur lequel on va revenir un peu. L'idée des entrailles, qui est un mot extrêmement important dans l'Ancien Testament pour décrire l'amour de Dieu. Et puis cette petite phrase, « Je suis Dieu et non pas homme », ça, il est là en tête en permanence. On essaye trop souvent de calquer sur Dieu les choses qu'on attendrait d'un homme. Et du coup, on est perdu. On essaye d'humaniser Dieu, et on voudrait, si Dieu m'aime, alors il doit réagir comme moi.
C'est un peu comme en psychologie du couple. On a du mal à se projeter à la place de l'autre et du coup, on attend que l'autre réagisse de la même manière que nous. On ne comprend pas pourquoi. Ah ben, il est différent. Il est différent. C'est pas c'est un homme, une femme. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, les réactions n'ont rien à voir. C'est un peu pareil entre nous et Dieu. On aimerait que Dieu réagisse pour nous comme nous, on le ferait. Et de calquer, plaquer en Dieu un amour humain. Or, l'amour de Dieu n'a rien d'humain. L'amour de Dieu Trinité, j'entends, hein, on n'est pas encore au Christ, parce que c'est l'amour d'un Dieu. Et on va le voir par certains points. Mais je m'arrête sur le mot entrailles, ce qui va revenir chez le Christ, ce mot entrailles, et il est très important. Il faut le prendre au sens le plus littéral du terme. Entrailles, c'est ra'amim, en hébreu, qui veut dire les viscères, les tripes, les entrailles. C'est ce mot qu'on retrouve dans le « Je vous salue Marie », Hein, je vous salue Marie, avec vos entrailles et bénies. Et donc, il évoque véritablement le lien entre une mère et son fils. Pour ceux qui me connaissent, c'est des sujets que vous avez peut-être déjà entendus, mais qui sont tout à fait importants à re-regarder maintenant. Le mot entraille, viscère. Et c'est exactement le texte qu'on a entendu ce matin, sur lequel je n'ai pas voulu faire mon sermon, parce que sinon, je n'aurais plus rien à dire maintenant. Mais providentiellement, je ne savais pas, avant de regarder ce matin, la liturgie nous fait lire, au début, à l'aube du temps de la Passion, ce texte d'Isaïe 49, 14, 15. Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Mais une femme peut-elle oublier son enfant et n'avoir pas pitié du fils de ses entrailles? Et quand bien même une femme oublierait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur Dieu. Mais dans Isaïe, des centaines d'années avant le Nouveau Testament. Dieu est un père au cœur de mère. Et Dieu va essayer en permanence de nous expliquer, de nous faire comprendre autant qu'il le peut comment il nous aime. Dans tout l'Ancien Testament, et c'est difficile parce qu'il est esprit. Il est esprit et il est Dieu. Et cet amour de Dieu pour nous, il est difficilement compréhensible. Alors, il va donner des images. Elle donne l'image du Père pour son peuple, qui est très, très belle, très puissante, qui n'est pas toujours évidente d'ailleurs. Hein, quand pour certains, évidemment, l'image du Père est extraordinaire. C'est l'histoire de cette religieuse qui va voir son Père spirituel et qui lui dit « Mon Père, je n'arrive pas à prier, je ne sais pas prier. » Le Père spirituel se dit « Voilà, ben, je vais apprendre quand même, comment on prie, c'est pas compliqué. » Alors, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous dites dans votre prière? Il y a la petite religieuse qui dit, bah, en fait, je commence, je dis notre Père, en fait c'est tellement beau que je me mets à pleurer et que j'arrive plus à prier après. Vous priez bien. Non, pour certains, je vous rends tout à fait que l'idée de la paternité divine soit l'image la plus haute, la plus belle de l'amour protecteur, nourricier, gardien de Dieu, de Dieu pour nous. Pour d'autres, c'est plus difficile. Hein. Dans l'apostolat, on se rend compte que bah, ce n'est pas toujours très simple, les relations familiales, et que pour beaucoup, il y a un certain obstacle à l'idée de paternité divine, à cause de la relation qu'on a eue avec son père. Il faut le savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que le bon Dieu nous donne plusieurs images de l'amour. Et je crois que l'image de la mère est un magnifique complément de l'amour que Dieu a pour nous. Des nourricières, c'est des protectrices, des de proximité aussi. Et puis l'image de l'époux et de l'épouse, qui est celle du Cantique des Cantiques. Il y a une idée sponsale dans l'amour que Dieu a pour nous. Et puis l'idée de l'ami. Et ça, peut-être, je m'avance peut-être un petit peu, mais il me semble, si on relie un petit peu le fil, que c'est l'idée la dernière. Je ne vois pas beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, même s'il y en a peut-être, qui expriment l'idée de l'amitié entre Dieu et l'homme. Il y en a peut-être, attention, hein, mais je ne crois pas que ce soit l'idée centrale de l'Ancien Testament. En revanche, c'est l'idée qui va se développer le plus, petit à petit, dans le Nouveau Testament, à travers le Christ, qui justement s'abaisse pour se mettre à notre hauteur, en quelque sorte. Et vous savez que l'amitié, le principe même d'une amitié, c'est l'égalité. Il faut qu'il y ait une certaine
égalité entre deux êtres pour qu'ils puissent être amis. Et c'est ce que Jésus fait comprendre chez Saint Jean.
Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et avec le thème, chez Saint Pierre, pour terminer, de la koinonia, donc ceux qui sont intéressés par ces choses-là, j'en ai parlé l'année dernière, je crois, sur Catéchèse, qui est le fondement de l'amitié, c'est-à-dire le partage. Une amitié, et l'amitié conjugale aussi, mais une amitié tout court, est fondée sur un partage, la mise en commun d'un bien. La mise en commun d'un bien. Et ça vient d'Aristote.
Eh bien, je trouve magnifique que les Écritures aient repris, pour essayer d'expliquer le lien qu'on a avec Dieu, cette idée qui vient d'Aristote, en tout cas le mot grec koinonia,
qui se retrouve à de nombreuses reprises dans l'Évangile et dans les Épîtres, je pourrais faire un topo entier là-dessus, et notamment dans ce que saint Pierre nous dit de la grâce. Que la grâce est une koinonia de la nature divine. C'est-à-dire que la chose qui est mise en commun entre Dieu et moi et qui fonde une amitié entre lui et moi, c'est que Dieu se donne entièrement à moi, c'est qu'il me communique sa nature divine, qu'il me divinise. Ça, c'est le thème de la grâce, le thème de l'Eucharistie aussi, qu'on va voir un petit peu, et qui est l'image la plus haute, la plus achevée, peut-être, de l'amour que Dieu a pour nous, si bien que pour saint Thomas, dans la somme théologique, la charité n'est rien d'autre qu'une amitié. Charité qu'on a pour Dieu, la charité que Dieu a pour nous, n'est rien d'autre qu'une volonté d'être notre ami. Enfin, ça c'est pour les différentes images. Mais restons sur celle de la mère, que je trouve quand même admirable. L'image de la mère, de l'amour viscéral, elle dit plusieurs choses. Elle dit d'abord exactement ce que nous sommes le fruit des entrailles de Dieu, nous provenons de Dieu, et elle dit du coup que l'amour que Dieu a pour nous est l'amour d'une mère pour son enfant. C'est-à-dire un amour inconditionnel, un amour qui ne revient pas sur lui-même, un amour qui ne s'annule pas. Pourquoi une mère aime son enfant? Parce que c'est son enfant. Non pas parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, c'est extraordinaire, même si c'est le cas. Elle en est persuadée. Mais elle en est persuadée parce que c'est son enfant. Et à chaque fois, bon, c'est parce que c'est le fruit de ses entrailles qu'elle l'aime et qu'elle le trouve extraordinaire. Et pas l'inverse. Ce qui fait que, de tous les amours qu'il y a sur la terre, le seul qui se rapproche un peu de l'amour que Dieu a pour nous, c'est l'amour maternel. Si vous regardez les autres, comment tombe-t-on amoureux? Comment crée-t-on une amitié? À l'origine, à la base, c'est parce qu'on a rencontré une personne et qu'on a vu dans cette personne quelque chose de bon, qui nous a plu, quelque chose qui était déjà là et qui a ému notre cœur. Soit dans l'amitié ou dans l'amour conjugal, ça commence par une reconnaissance. Ça commence par une admiration des qualités de la personne qui me disent « Ah, c'est une chouette personne, je vais me rapprocher de cette personne. » Alors, il ne faut pas s'arrêter là, bien entendu. On n'aime pas les gens uniquement parce que ce sont des bonnes personnes. Notre amour va évoluer petit à petit pour être un amour de don, un amour dans lequel on veut du bien à cette personne de plus en plus. Donc ça va être de moins en moins égoïste et de plus en plus généreux. Mais à la base, un amour humain se crée parce que j'ai vu du bien dans la personne. Et il y a certaines personnes, quand je les rencontre, je vois du mal en eux. Elles me sont désagréables et donc je m'éloigne d'elles. C'est comme ça que marche l'amour humain à la base. Le seul amour humain, je crois, dans lequel il n'y a pas ce phénomène, c'est l'amour maternel. Ce n'est pas parce que j'ai vu du bien dans mon enfant que je l'aime, c'est parce que je l'aime que je vois du bien en lui. L'amour est premier et non pas second. L'amour n'est pas causé par la bonté de l'autre, l'amour cause la bonté de l'autre. Et si on va plus loin encore dans le rapprochement entre l'amour de Dieu et l'amour conjugal, l'amour maternel, c'est parce que les époux se sont aimés qu'ils ont engendré cet enfant. L'enfant est le fruit d'un amour. L'amour a été premier et il y a eu l'enfant. Vous voyez ? Une sorte d'amour créateur, pro-créateur. Ce lien est très important et très fort. Eh bien, c'est la même chose pour le bon Dieu.
Dieu a choisi d'aimer. Dieu est amour, déjà. Dieu est amour. Et son amour est choisi, il veut qu'il se répande, et il devient créateur.
Et donc, aimant, il fait du bien autour de lui, et il nous crée.
Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. En ce moment même, Dieu ne m'aime pas parce que je serai saint, ou parce que je serai bon, parce que je serai extraordinaire. Dieu m'aime, point barre. Parce que c'est ainsi qu'il agit. Dieu m'aime, et la preuve qu'il m'aime, c'est que j'existe. Je suis le fruit de cet amour de Dieu, et Dieu, en m'aimant, me fait du bien. Son amour continue à me perfectionner, à m'apporter la vie, à m'apporter la vie. Il y a un renversement entre l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous pouvons avoir pour les autres. Et la seule image qui existe sur la terre, c'est l'amour maternel, l'amour créateur. Et ça commence à répondre un petit peu à une question. In fine, il les aima jusqu'à la fin. Est-ce
qu'il peut y avoir une fin à cet amour de Dieu si on ne parle que de l'amour de la Trinité pour nous?
Non. Non, il ne peut pas y avoir de fin. L'amour que Dieu a pour moi est aussi infini que lui-même, puisque en Dieu, l'amour et Dieu, c'est pareil. Dieu est amour. Ce n'est pas Dieu qui aime, c'est Dieu qui est amour. Son amour est aussi infini que lui-même. Conséquence, Dieu aimera toujours, il aimera toujours, il aimera les damnés, les âmes qui sont en enfer. Il les aime. Il n'arrête pas de les aimer. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'arrête jamais d'aimer. La preuve en est que ces âmes existent.
Alors là, on est dans un mystère de fou. Évidemment, je ne dis pas que c'est simple, mais je vous dis qu'il faut aller jusqu'à cette exigence-là.
Si on veut essayer de toucher un peu du doigt l'infinité de l'amour de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui met une fin à son amour. Jamais. Jamais. C'est peut-être nous qui, à un moment, avons dit stop. Oui. La fin, c'est le moment où l'homme lui-même dit stop
et s'échappe. Et s'échappe de cet amour de Dieu.
Se rétracte. S'en va. S'en va. C'est pas Dieu qui est parti. Jamais. Je crois que ça peut nous aider un petit peu dans la méditation du péché. Et cet amour, cette course de Dieu qui essaie de rattraper le pécheur en permanence, c'est l'homme qui part.
Voilà. Voilà une première idée. Je parle beaucoup trop. Peut-être beaucoup trop long. Comment c'est à quelle heure ?
À 40.
Ah oui.
On va peut-être décaler un petit peu le... On va voir. Mais il y a quand même des choses importantes. Ça, je ne vais peut-être pas en parler. Je suis un peu obligé d'en parler quand même.
Il faut... Si.
Quand on parle de l'amour de Dieu dans le Saint-Testament, de l'amour de Dieu Trinité, il faut, vous voyez, admettre le mystère.
Comment est-ce que Dieu nous aime ?
Pas comme nous. Dieu est Dieu et pas homme. Est-ce que Dieu ressent des choses ? Compliqué. Compliqué de dire ça. Nous, vous voyez, quand on aime, on palpite. Quand on aime, on se réjouit. Quand on aime, on a le cœur brisé. Quand on aime, il se passe plein de choses en nous. D'émotions, de passions. Est-ce qu'on peut les mettre en Dieu ? Ça veut dire qu'en ce moment, Dieu est triste des pécheurs ?
Compliqué. À la fois de dire oui ou à la fois de dire non.
On ne peut pas tellement dire que Dieu est malheureux au ciel, ça pose un énorme problème, parce qu'il m'a quand même promis le bonheur éternel, le bon Dieu. Et moi, quand je vais mourir, je n'ai pas envie que le ciel soit un endroit où tout le monde pleure et se lamente sur les pécheurs, parce que c'est le bonheur éternel. C'est ce qu'on m'a dit, ça a été révélé quand même.
Dieu est dans la joie parfaite de lui-même. Et donc on ne peut pas plaquer en Dieu une souffrance qui serait une souffrance humaine, en tout cas.
En Dieu Trinité, j'entends, hein. On ne parle pas encore de Jésus. En revanche, on ne peut surtout pas dire qu'il est insensible. Parce que ce serait ça, l'autre exemple. Dieu n'a pas de passion.
Ah ben non, parce qu'un homme qui n'a pas de passion, c'est quelqu'un d'insensible.
Quelqu'un qui s'en fout. Dieu s'en fout.
Mais non. Vous réagissez comme un homme. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu.
Et il y a quelque chose en lui, certainement qui surpasse et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer de tendresse et d'amour et de certaine souffrance, mais avec mille guillemets, mais sur laquelle on ne peut rien dire. Et dès qu'on essaye d'en parler, on transforme Dieu en un homme, et du coup on ne comprend plus. On ne comprend plus sa joie parfaite. On va être obligé de rendre Dieu triste au ciel parce qu'il ne peut pas être heureux avec tout le mal qu'il y a sur la terre. Ben si. Ben on s'en fout. Eh ben non. Et vous voyez que il faut respecter le mystère de Dieu. Dieu essaye de nous en parler. Dans tout l'Ancien Testament, il essaie de nous en parler, de nous dire qu'il est comme une mère pour nous, comme un père pour nous. Il essaie de... Mais ça reste Dieu. Et en théologie, pour un chrétien qui pense à Dieu, il doit garder ce mystère-là. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu, au final, s'est incarné. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a voulu transmettre au cœur de Jésus tout ce qui se passait dans sa divinité, tout là-haut dans le ciel, et qui nous est inaccessible, pour que nous, rencontrant le cœur de Jésus, on puisse toucher du doigt peut-être mieux ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Et c'est ça, l'incarnation, c'est la révélation du mystère de l'amour de Dieu pour nous. Il ne faut pas diminuer ou chercher à vulgariser le mystère de Dieu. Dieu se charge de le faire, entre guillemets. Dieu se charge de nous le communiquer, et c'est en regardant vers le cœur transpercé qu'on comprendra un peu mieux, vers le cœur de Jésus. C'est ça l'incarnation. Soit c'est le moment le plus important de toute l'histoire. On va dire c'est la croix, c'est vrai que c'est la passion le plus important. Mais pour Bérulle, par exemple, pour Bérulle, la fête liturgique la plus grande, c'est la fête de l'incarnation. Il n'y a pas de fête de l'incarnation, si. C'est le 25 mars. Mais oui, c'est le mystère caché derrière le fiat de Marie. C'est le mystère caché derrière le fiat de Marie, ce qu'on ne voit pas. Ce qui se passe à ce moment-là, quand Marie dit oui, vous êtes l'œuvre la plus grande, sans doute l'œuvre la plus grande qui puisse arriver. Alors la croix sera beaucoup plus impressionnante, visible. Mais l'incarnation, le fait que le divin rencontre l'humain et que l'amour incré de Dieu s'incarne dans un cœur, un vrai cœur qui va battre et saigner pour nous, c'est sans doute le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Si vous avez la chance d'un jour d'aller à Nazareth, du coup, vous verrez la maison de la Vierge Marie, avec cette petite phrase, voilà, bon, c'est très impressionnant quand même, « El verbum hic caro factimus ». Et le verbe s'est fait chair ici. Enfin, un lieu, un endroit, géographique, une place, une petite maison qui est encore là en partie, et c'est là que le divin a rencontré l'humain, et c'est là que Dieu s'est incarné, et que son amour s'est incarné. Voilà. Il faut aller à la source. Donc le Christ, je crois, est vraiment avant tout la révélation de l'amour de Dieu pour nous. S'il n'y avait pas eu le péché, est-ce qu'il y aurait eu ça? C'est un grand débat, je ne rentre pas là-dedans, mais comme c'est enregistré, je ne veux pas vous lancer dans des hérésies. Voilà. Pour saint Thomas, non. S'il n'y avait pas eu le péché, je pense qu'il a raison, il n'y aurait pas eu l'incarnation. Pour les franciscains, s'il y aurait eu l'incarnation, parce qu'il fallait que l'amour de Dieu soit révélé aux hommes de toute façon. Je vous laisse lire, c'est un débat libre dans l'Église, tout à fait passionnant pour d'autres sujets. Ce que je voulais vous montrer quand même en avançant, c'est que justement ce Jésus qui incarne les sentiments de Dieu, qui incarne ce qui se passe en Dieu. Le mot Ra'anim, ces entrailles qui frémissent dans le cœur de Dieu, cette mère pour nous, je voulais vous dire, Rembrandt représente, vous voyez, la scène de l'enfant prodigue. Un tableau rouge, un peu noir dans le fond, très beau, où le père pose les mains sur son fils, l'enfant prodigue, qui demande pardon, et il semble bien, les experts d'art pourront peut-être infirmer ou confirmer, on ne sait rien, mais il semble bien qu'il y a une main masculine et une main féminine dans l'œuvre de Rembrandt, et que c'est volontaire. En tout cas, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est vrai que les deux mains ne se ressemblent pas du tout. Les deux mains du père pour l'enfant, et puis il y a une main masculine et une main féminine. Dieu est un père au cœur de mère. Le mot Ra'anim apparaît dans le Nouveau Testament, alors évidemment pas en hébreu, parce qu'en tout cas les textes que l'on a, c'est les textes grecs, mais en grec, je vous le donne quand même, par souci de... Voilà, et vous n'avez pas réussi à noter. Esplanchinitsé. Esplanchinitsé. Voilà, c'est-à-dire les entrailles, les viscères. Et dans le mot le plus littéral, le plus biologique du terme.
Et ce mot revient à plusieurs fois dans l'Écriture quand on parle de Jésus. Peut-être que vous avez en tête ces passages. Il y en a un qui est extraordinaire, en Matthieu 9, 36, où Jésus commence sa vie publique, il y a la foule qui le suit, et Jésus vraiment se retourne. Jésus, voyant la foule, Matthieu 9, 36, fut pris aux entrailles pour elle, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous allez retenir ce passage. On va le retrouver quand on va parler de la mort du Christ et des prophéties sur le Christ. Le fait de voir des brebis sans berger, des brebis dispersées. Eh bien, ça, pour le Christ, ça lui remue les entrailles. Il y a un autre passage aussi magnifique. La résurrection de la veuve de Naïm. La veuve de Naïm, c'est une dame. Elle a perdu son mari, donc elle est veuve, et là, elle vient de perdre son fils unique. Détresse humaine. Ce n'est pas une détresse morale. Bon, au sens, ce n'est pas un péché. Elle n'est pas dans le... Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, ce qui pourrait nous étonner d'ailleurs, hein, que Jésus est tout autant ému de la souffrance matérielle, humaine, affective des hommes que de leur péché. Et ça, pour un cœur miséricordieux, ce sera notre conclusion demain. C'est-à-dire que la preuve que Jésus a touché notre cœur, c'est que nous sommes émus par la détresse des gens. Et pas simplement par leur péché. C'est ça que parfois on se dit, il faut le mal le plus grand, c'est le péché, donc il n'y a que ça qui doit nous remuer. Non, Jésus, on le voit sur la terre, il souffre avec les pauvres. C'est quand même des thèmes. Alors aujourd'hui, on est un peu parfois frileux avec ces thèmes-là. Je crois qu'il ne faut pas... Jésus est ému de voir les gens qui ont mal et qui ne vont pas bien dans toutes les dimensions de leur vie. Ça, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu est ému de la même manière. Vous allez le voir au Saint-Sacrement. Et Jésus, il s'intéresse à vos soucis matériels. Il s'intéresse à vos peines et à vos difficultés, même les plus concrètes. Il ne s'intéresse pas juste à ce que vous ayez dans l'état de grâce. Évidemment, c'est ce qui compte le plus. Mais tout le reste compte. Jésus a un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. La scène est très belle. On voit le cortège qui s'éloigne en quelque sorte de la ville et Jésus qui approche. Les deux mouvements. Voilà, regardez un peu les mouvements là dans l'évangile. Très important. Jésus, voyant celle-ci, première chose, Jésus voit. Retenez bien tout ça. Voyant celle-ci, le Seigneur fut pris aux entrailles, littéralement, lui dit ne pleure pas, et il s'approcha et toucha le cercueil. Et la résurrection du Fils. Les trois étapes. Jésus voit. Jésus est pris de compassion et pris aux entrailles. Et donc, Jésus s'approche. Ce même mouvement, on va le trouver exactement de la même manière dans l'évangile du Fils prodigué, qui est un récit de nous quand nous éloignons de Dieu. On est parti, on s'est éloigné du Christ, on est pris de remords, et on revient. Et ce qui est magnifique dans cette scène, c'est que le fils est en train de revenir, après préparer son discours, il s'imagine que c'est lui qui est en train de tout faire. Et là, c'est chez Saint-Luc, le même qui a raconté le truc de l'épisode de la veuve de Naïm, donc le sens des mots est tout à fait significatif aussi. Tandis qu'il était encore loin, c'est l'éloignement entre le père et le fils, l'éloignement entre la veuve et le Christ, son père l'aperçoit, d'abord, il le voit, il est pris de pitié, il est pris aux entrailles, et il court se jeter dans ses bras et l'embrasse tendrement. Cette course de Dieu vers le pécheur, cette course, cet approchement de Jésus vers l'homme qui est mort, eh bien c'est là, c'est l'incarnation, c'est la descente de Dieu vers nous. Jésus se rapproche de nous. Le mouvement de l'amour de Dieu fait qu'il nous voit, il est pris d'amour, pris de compassion, et donc il s'approche. C'est lui qui s'approche. Il y a un autre passage où on pourrait dire, c'est un peu le même mot, c'est au moment de la résurrection de Lazare. Mais bon, vous savez, Jésus a permis que Lazare meure. Et puis trois jours après, il vient le voir. Et là, il voit Marthe, il voit Marie-Madeleine, il voit tout le monde en pleurs. Et Jésus est pris de pitié et se trouble en lui-même. Alors j'ai regardé, dommage, c'est pas le même mot en grec, c'est pas le même mot, mais je m'arrête quand même sur « il se troubla en lui-même ». Vous allez la noter dans un coin, parce qu'elle va nous servir pour tout à l'heure, quand il s'agira de parler de l'agonie. C'est Jésus qui se trouble.
Le mot tobaresseisou, c'est Jésus qui est maître de ses passions. Ça, c'est le mystère du Christ sur lequel il faut faire attention, parce qu'on aimerait bien que Jésus soit comme nous, et que Jésus soit comme nous, ça veut dire qu'il se laisse complètement déborder. Nous, on est passionnels, ça veut dire qu'on se laisse déborder par nos passions, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus nos passions. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui se fait prendre par sa passion, et que ce soit la tristesse, la joie, la colère. « Ouais, je suis passionné, non ?» Non. C'est juste que vous ne maîtrisez pas du tout vos passions. C'est que vous êtes passionné. Jésus est sans aucun doute l'homme le plus passionné du monde, parce qu'il est l'homme parfait, et donc, il est ému par tout ce qui peut l'émouvoir. Il est d'une sensibilité extrême, Jésus. Mais pas au sens où on pourrait l'entendre que il se laisse complètement déborder à tout moment, qu'il pleure sans arrêt. Non. Tourbare seipsum. Parce que dans le Christ, qui est l'homme parfait, la volonté, l'intelligence maîtrisent parfaitement les passions, non pas pour les empêcher d'agir, mais pour qu'elles participent à tout ce qu'il veut. Et lorsque Jésus est troublé, rentre dans le trouble, lorsque Jésus pleure, il a une maîtrise parfaite de tout cela. Il est véritablement éprouvé, mais il n'est jamais débordé par ses passions. Ses passions sont au service de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il veut faire. Ça peut nous sembler un peu curieux pour nous, mais je crois qu'il faut faire attention.
L'éloge de l'homme passionné et du coup qui n'est pas capable de maîtriser sa passion, c'est qu'il manque, il y a quelque chose qui ne va pas.
Les passions sont faites pour être réglées et orientées par l'intelligence et la volonté. Et le Christ est sans doute comme le plus passionné du monde. Mais ses passions sont à leur place. Mais retenez le tourbaré seissou.
Bon, je passe de loin. À quelle heure je dois m'arrêter?
Vous deviez vous arrêter à 15.
Ah vache.
Et on peut y voir.
Il y avait 4 conférences l'année dernière. Hein. Non?
Oui.
Oui, oui. Je...
Qu'est-ce que je fais? Je l'agonie, mais c'est quand même vraiment beau. Non, je vais... Bon, bah, 10 minutes.
On jusqu'à 40, oui.
Ouais. Bah, juste deux mots, peut-être que je leur dirai un petit mot à l'adoration. Parce que tout ça nous amène, la contemplation de l'amour du Christ pour nous amène au mystère de l'Eucharistie, qui était... conclusion de cette première partie, qui est la première manifestation de l'heure de Jésus, le fait que Jésus nous donne son corps. Et voilà, je crois que nous sommes appelés à voir l'Eucharistie comme étant la preuve et la manifestation de l'amour du Christ. Chez saint Jean, il n'y a pas de récit de la scène.
Il n'y a pas de récit, pardon, de l'Eucharistie, de la première scène. Il parle du repas, il parle de tout ce que le Christ fait avant le repas, la mendicité, etc. Mais il n'y a pas de Jésus prit du pain, il le rompit, etc. Curieusement non, parce qu'en fait tout était dans le chapitre 6 de saint Jean, au grand discours du pain de vie à la synagogue de Capharnaüm, lorsque le Christ m'a dit mangez-moi. Il faut prendre au sens le plus strict, la preuve étant que tous les disciples qu'il avait suivis et qui voulaient le faire roi une heure avant, en tout cas la veille, parce qu'il avait multiplié les pains, c'était l'évangile de dimanche dernier, je crois, l'écoute, et dès que Jésus dit « mangez-moi », tout le monde s'en va. Jésus n'est pas là à les rattraper en disant « non, en fait, c'est une métaphore, c'est une image, c'est spirituel, le pain, c'est une représentation. » Non, non, Jésus laisse partir. C'est qu'ils ont très bien compris le sérieux de l'Eucharistie, qui est vraiment « mangez-moi, mangez-moi ». Et ils se retournent, tout le monde s'en va. Et Jésus se retourne vers les apôtres, et dit, est-ce que vous aussi, vous allez m'abandonner pour ça, pour le scandale qu'est l'Eucharistie? Et les apôtres disent, ah, où voyons-nous, Seigneur? Vous avez parole à la vie éternelle. On n'a rien compris. Mais bon, on va rester. On va rester. Il faut garder le côté, je crois, scandaleux de l'Eucharistie pour nous qui sommes tellement habitués à l'Eucharistie, à ceux qui nous connaissent. Je la sors à chaque fois, il faut lire Julien Green qui décrit ces personnes qui vont à la messe Elles descendent du Golgotha, elles parlent de température. Si elles pouvaient s'étonner, elles seraient sauvées, mais elles ont fait de la messe l'une de leurs habitudes, c'est-à-dire quelque chose de vil et d'humain. Et c'est l'habitude qui donne le monde. Pour nous, on est appelé, je crois que la grâce du jeudi saint, ça peut être ça, essayer de nous déshabituer de l'Eucharistie, qui est la preuve immense que Jésus nous aide à deux égards. Enfin, ce sera les deux petits points pour terminer. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? C'est une présence et une union. Et c'est deux actes d'amour. La présence d'abord. La présence, le fait que Jésus veut rester présent au milieu de nous. C'est ça l'Eucharistie. C'est comment Jésus parvient à mettre en œuvre la promesse qu'il a faite le matin de l'Ascension. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est en étant dans l'hostie. Et ça, c'est à mettre en rapprochement avec il les aima jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a une fin à l'amour de Dieu? En tout cas, sur terre, non, parce qu'il va être présent jusqu'à la fin du monde. Il les aima jusqu'à la fin du monde. Au moins. Donc on admet qu'il n'y a pas de fin à l'amour de Dieu au niveau temporel. Et c'est ça l'Eucharistie, la présence. Le fait que Dieu veut être là. Et quand on prend conscience de cela, on se dit, Jésus, il est là depuis ce matin. Il est là depuis que l'école est construite. Mais il n'est pas là symboliquement, il est là physiquement, réellement. C'est l'habitant des lieux. Dans l'Église, le curé d'Ars passait parfois des sermons entiers à dire, il est là, il est là. C'est nous faire comprendre ce que ça veut dire la présence physique, présence réelle de Dieu, pas symbolique, c'est ça qui est merveilleux. Souvent les protestants n'ont rien compris. Pour eux, la présence s'arrête avant à la fin de la messe. Non, il est là, dans ce pain, car ceci est le corps du Christ. Alors que cette idée, est-ce qu'il y a plus grande preuve d'amour que de vouloir être présent en permanence auprès de quelqu'un ? Alors que cette personne n'est pas présente à nous. Et on reste. Et on reste, et on reste en permanence. Vous pensez à... Oh, je ne dis pas. Non, il y a une scène... Oui, non, je ne dis pas, là, ça va tout casser. Je vais penser. Le fait de rester présent auprès de la personne qu'on aime, alors que cette personne-là fait ses activités. Bah, et de temps en temps, peut-être un peu, pense à Jésus. Et Jésus, il est resté là depuis le début, pour qu'au moment où la personne se décide d'aller, je lui en dis, ben, il soit là. Et cette présence de Dieu sur le monde, qui est vrai, qui est incarné, pour être tout à fait conscient, le Vendredi Saint essaie de nous faire toucher du doigt cela,
par une cérémonie très impressionnante, qui est que, alors, ça a un peu évolué avec les différentes modifications de la Semaine Sainte, mais je vous donne l'idée principale, l'idée originelle, c'était que le Jeudi Saint, on consacrait un ciboire pour la communion des fidèles, on consacrait deux hosties. Une grande hostie pour la communion du prêtre et le saint, et une autre grande hostie qu'on amenait au reposoir. Ce n'était pas un ciboire qu'on amenait au reposoir, c'était une hostie. C'était le Christ. Voilà. On l'amène au reposoir, on veille sur lui pendant toute la nuit du jeudi saint, c'est l'agonie, etc. Après, on le ramène en procession le vendredi saint, qui n'est pas une messe, qui est un office un peu particulier, et le prêtre communie seul à cette hostie, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que maintenant il donne la communion aussi aux gens le vendredi saint, et à un moment, le prêtre est communié à 15h, eh bien, il n'y a plus de présence réelle sur Terre. L'idée que vous voulez, que la liturgie voulait faire comprendre, c'est imaginer un instant qu'il n'y ait plus la présence de Dieu sur Terre. Vous l'avez en permanence, vous êtes tellement habitué qu'on ne s'en rend plus compte. Pendant une journée et demie, le temps de la mort du Christ, les tabernacles sont éventrés. Entrez dans une église un samedi matin, samedi saint matin, et essayez de prendre conscience de ça. Qu'est-ce que serait un monde sans la présence réelle? Et c'est ça que un monde, Dieu n'est plus là. Je ne suis plus avec vous. C'est ça qu'on essaye d'exprimer. Alors, c'est liturgique, attention, hein. Surtout que, fais gaffe, il y a une petite réserve, je casse un peu le mythe, il y a une petite réserve de ce titre, quand même. Pour s'il y avait des mourants le vendredi soir ou le samedi matin, pour leur apporter le saint viatique, mais qui est caché en sacristie. Les églises sont vides de la présence de Dieu. L'absence réelle du samedi saint, méditez-la, parce que je crois qu'elle nous prendre conscience par négatif de la chance qu'on a d'avoir le Christ. Et puis l'autre point, donc, présence et union. Présence, on a vu, l'Eucharistie, c'est la présence, et Jésus, au moment où il allait mourir, veut rester présent pour dépasser quelques heures de sa mort, et l'union. Parce que c'est pas le tout d'être présent à la personne qu'on aime, l'amour tend à l'union,
L'amour, l'amour d'amitié, l'amour conjugal, tant à l'union, ils ne sont plus qu'une seule chair, l'union des cœurs, mélange des cœurs. Et c'est ça que Jésus veut pour nous. Et c'est là qu'il a eu l'idée formidable d'inventer l'Eucharistie. Il y a, je vais vous le dire, le Père Dehaut qui essaye d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête de Jésus au moment où il se prépare à inventer l'Eucharistie, qui dit Jésus a regardé un morceau de pain. Il dit, qu'est-ce qui est le plus uni à cette personne que j'aime, ce bienheureux, à cette personne bien-aimée? Il a regardé l'alimentation et il a regardé le morceau de pain, il s'est dit, c'est un peu ridicule. Mais c'est vrai que quand il est mangé par l'homme, ben il devient l'homme. Il n'y a plus de distance entre l'homme et son aliment, le fait même que l'aliment se répand et lui donne sa force. L'aliment le nourrit, l'aliment est nécessaire pour lui. Et Pardo continue en disant, Jésus a jalousé le morceau de pain. Il était jaloux du morceau de pain. Et il s'est dit, comme je suis tout puissant, comme je suis Dieu, je fais ce que je veux, je vais voler à ce morceau de pain sa substance, je vais mettre à l'intérieur, je vais laisser ses accidents et tout ça pour qu'on y voit ni lui ni connu, mais je vais le cacher à l'intérieur comme ça quand l'homme va le manger, eh bien, je vais venir en lui et je vais faire piquer avec. Il y a cette énorme différence que là, ce n'est pas le morceau de pain qui va devenir l'homme, qui va se transformer dans l'homme, c'est l'homme qui va se transformer en moi, parce que c'est moi le plus fort, et étant à l'intérieur de lui, je vais lui apporter ma vie et ma force. Vous voyez ? Il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fin à l'ingéniosité du bon Dieu, parce que c'est une invention. Une invention, c'est sorti de sa sagesse amoureuse, complètement... C'est choquant. Au vrai sens du terme, c'est scandaleux. Il faut garder le côté scandaleux de l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un amour transi qui peut inventer quelque chose pareil, et pour lui qu'il en ait le pouvoir. Voilà. Donc voilà les deux grands thèmes de l'Eucharistie. Ça va vous aider pour l'adoration de ce soir, j'espère. Et ça me permet de clôturer maintenant pour pouvoir parler de l'agonie quand même de tout à l'heure. Désolé d'avoir été un peu long.
16h30, prochain rendez-vous.
16h30, prochain rendez-vous. Je vais aller où vous allez.
Non, il va